RCF.
Bonjour, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, sous le patronage d'Agora Défense et dans le cadre de l'émission Le Berry, ça compte. Alors aujourd'hui, nous retrouvons M. Claude Vigoureux, directeur du service départemental de l'ONAC Victimes de guerre, qui va continuer son passionnant récit sur la vie du colonel Gaston de Bonneval. Alors nous nous sommes arrêtés dans la précédente émission à sa libération du camp de Mauthausen et maintenant nous allons retrouver le colonel de Bonneval en 1945 et là un autre destin se préfigure, c'est sa collaboration, c'est cet attachement viscéral à une personne qui a marqué notre histoire, c'est le général de Gaulle. Monsieur Vigoureux, bonjour.
Bonjour.
Alors, 1945... Il rentre à Thaumier. Je vous écoute.
Alors, peut-être juste un mot donc de ce retour à la vie réelle, à la vie normale. Pour Gaston de Bonneval, c'est la résurrection, puisque quand le camp est libéré, à deux, trois jours près, il s'éteignait. Il fait 33 kilos, alors qu'il mesure 1m82. Peut-être, je voudrais vous lire cinq lignes qu'il a écrites qui décrivent la mentalité du rescapé des camps de la mort. Il se demande pourquoi lui a survécu et pourquoi tant d'autres ont disparu. Étions-nous plus forts physiquement? J'en doute. Car parmi ceux qui ont disparu, beaucoup étaient aussi vigoureux et solides que nous. Étions-nous plus armés moralement? Peut-être. Bien que nombreux aient été ceux dont la force de l'âme, le courage, égalaient sinon surpassaient les nôtres. Alors, je ne connais pas la réponse. Nul ne la connaît, car c'est là le secret de la destinée, et on ne peut pas plus influer sur elle que l'on ne peut influer sur un phénomène atmosphérique. Donc Gaston de Bonneval retrouve sa femme, ses enfants, qui ont du mal à le reconnaître, vous imaginez bien, et sur le plan physique et sur le plan psychologique. Oui. Il va passer sa convalescence à Thaumier, dans la demeure familiale, et alors qu'il marche avec des béquilles, il est convoqué à Paris, au siège du gouvernement provisoire, et là on lui apprend qu'il a été sélectionné pour être l'aide de camp du général de Gaulle. Vous imaginez le choc psychologique pour d'abord un ancien résistant de servir le premier résistant de France, et pour quelqu'un qui sort de l'enfer, d'être projeté subitement dans l'actualité et dans l'excitation, la surexcitation, la fébrilité des cabinets ministériels. Donc, et il ne peut pas imaginer à ce moment-là que c'est le début d'une collaboration qui va durer 20 ans.
C'est extraordinaire.
Extraordinaire. Et là, tout de suite, que Charles de Gaulle le reçoit en entretien, et après quelques minutes, il dit « bon, c'est bon, oui, je le prends ». Et c'est tout de suite. Et donc, quand je dis tout de suite, c'est que pour la famille qui vient juste de le retrouver, ça va être de nouveau...
Une séparation.
Puisque le service d'aide de camp, c'est d'être en permanence auprès du général de Gaulle, qui est alors président du gouvernement provisoire. Mais lorsque le général de Gaulle quitte ses fonctions en 1946, il part avec ses aides de camp. Alors, important de dire, quand il entre au service du général de Gaulle, Gaston de Bonneval travaille avec un autre aide de camp qui va le former, qui est un lieutenant d'aviation qui s'appelle Claude Guy.
Oui, c'est ça. Bon. Que l'on voit souvent sur les images, en particulier de la libération de Paris.
Absolument, un grand gaillard, est lancé. Par contre, donc de Gaulle part avec ses deux aides de camp, mais en 1947, suite à une brouille d'origine d'ailleurs très secondaire, Claude Guy doit démissionner. Il ne reste plus que Gaston de Bonneval. Et Bonneval va rester auprès du général de Gaulle. Donc il va faire toute la traversée du désert à Colombey, de 1946 à 1958. Donc sa famille, vous imaginez, quand il est de service, sa famille est à Paris ou à Thaumier, et lui, il est tout seul à Colombey. Et il accompagne le général partout, dans tous ses déplacements. En France, au moment de l'aventure du RPF,
oui.
Il visite il vient à Marmagne notamment,
oui. Oui.
En 1947. Et puis à l'étranger, parce que le général de Gaulle, même avant son retour au pouvoir, est invité aux quatre coins de la Terre. Et puis 58, c'est les événements d'Algérie.
Alors.
Et donc, Gaston de Bonneval va se trouver le témoin privilégié des tractations politiques qui ont lieu au sommet de l'État entre le président de la République, René Coty, et le général de Gaulle. Il a la chance d'assister à l'histoire en direct, à la grande histoire, et il va vivre ces événements-là dans la loyauté évidemment la plus absolue à son chef, mais en conservant toujours le silence.
Ah oui.
Chaque fois que des journalistes vont vouloir l'approcher pour obtenir un bon mot, une petite phrase, un scoop, ils en seront toujours pour leurs frais. Et donc ils vont pas lui en savoir gré. Il va avoir des surnoms comme porte-coton, comme nounou du général,
ouais.
Parce que c'est une tombe. Bonneval, c'est une tombe. Il voit tout, il dit rien.
Alors, est-ce que on a dit que on a comparé le colonel de Bonneval à un grognard? Et moi, je vous pose une autre question. Est-ce qu'on peut plus le comparer au maréchal Bertrand, hein, qui accompagnait Napoléon jusqu'à Sainte-Hélène? Alors, qu'est-ce que vous choisiriez?
Plutôt Bertrand, parce que grognard dit grenier. Gaston de Bonneval n'a jamais grogné.
Voilà.
Il n'a jamais manifesté la moindre animosité à l'égard du général de Gaulle, qui lui, par contre, n'était pas toujours tendre avec ses proches, on le sait.
Oui.
Non, on peut pas dire qu'il soit non plus un Joinville pour Saint-Louis, parce qu'il n'a rien écrit.
Non, c'est ça.
Il n'est pas un Lascaz pour Napoléon.
Oui.
Il n'est pas un Racine pour Louis XIV. C'est pas un historiographe. Il garde pour lui tout ce qu'il voit, ce qu'il entend, considérant que c'est un privilège, mais aussi un devoir moral. À l'égard de celui qu'il a pris dans son intimité.
Totalement, totalement. Alors, pourquoi est-ce qu'il quitte le général de Gaulle en 1965?
Alors, il va le quitter parce que, c'est aussi important de souligner, durant toutes les années où il a été aide-de-camp général de Gaulle, il a surmonté des ennuis de santé, qui étaient un legs de sa déportation, des ennuis de santé multiples. Et aussi, il souffrait d'un traumatisme psychologique post-traumatique qu'on peut bien comprendre.
Oui.
Et il est rattrapé à la fin de l'année 64 par tout ça. Et il se dit qu'il n'est plus, il n'a plus la force de continuer. Donc c'est une démission pour raison strictement personnelle.
Oui. Il quitte le général de Gaulle, mais ça c'est la dernière partie de sa vie, ce qui est quand même assez extraordinaire. Hein. C'est qu'il poursuit une carrière politique locale. Alors.
Absolument, c'est-à-dire qu'il décide de revenir s'établir à Thomiers, sur le domaine familial, parce que sa mère vieillit. Et il se trouve que chez les Bonneval, depuis le milieu du XIXe siècle, on est maire de Thomiers de père en fils ou d'époux en épouse.
Ah oui.
C'est sa mère qui décide de laisser la mairie en 1965. Il va se présenter, il va être élu. Et en parallèle, peu de temps après, il va être élu conseiller général de Charenton et conseiller régional.
Oui.
Donc il va mener ce service politique en marge de l'exploitation du domaine familial. Il va essayer d'être agriculteur, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et après, il va se consacrer au service de ses concitoyens. Mais aussi, disons-le, à partir des années 1970-80, il va sentir le besoin de témoigner de sa déportation. Alors qu'il n'a jamais pu en parler à sa famille, jamais.
Oui.
Lorsque les premiers négationnistes se font entendre, pour lui comme pour l'ensemble des déportés qui sont revenus des camps, il comprend qu'il faut parler, qu'il faut témoigner. Et donc il va lancer des nuits de la déportation à Thomiers.
Ah oui.
Voilà, tous les ans, au cours desquels sont lus des poèmes ou des témoignages, alternés par des chants, de la musique. Et puis il va écrire. Il va écrire des poèmes nombreux, qu'il va publier sous le titre « Déportation », et dans lesquels on découvre, on comprend ce qu'il a pu vivre et ce qu'il a toute sa vie trimballé avec lui.
Alors, monsieur le directeur, merci pour ce récit passionnant sur cet homme, Gaston de Bonneval, fidèle des fidèles du général de Gaulle, à la discrétion absolue sur ces événements de 1946 à 1958, avec peut-être le regret de ne pas avoir pris la plume pour décrire ces années fondatrices de notre Ve République. Mais allez-y,
voilà,
je vous en prie.
Voilà. Il n'a effectivement rien écrit, mais avant de quitter ce monde, il a pris la peine de déposer ses archives aux archives du département, aux archives du Cher, laissant là la porte ouverte à ce que d'autres s'emparent du récit et écrivent pour lui ce qu'il ne pouvait, ce qu'il ne se sentait pas capable de faire.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Claude Vigoureux.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, fidèle auditeur, auditrice, pour votre écoute de notre émission Le Berry se raconte sur l'histoire militaire du Berry avec Agora Défense. Et bonne semaine à vous.